RFI, la sélection du mois.
Aira Star.
Now which kind of life way I never see. I carry God so I fear nothing. Steady increase in the commas. Comma, comma, comma.
Quartetto Tafi. Andrea et Blaise Faya.
She bring me light, bring me joy, bring me light. Yeah, you the third is the one I mean, I tell no like. Here that she bring me smile, bring me love, bring me light. She's my best friend, my confidant, she's my queen from long time.
And take it, when you bubble and bubble and
Schön put
me in the trouble. Give me the greatest, keep doing non-stop, y'all wibble and wobble. Stick to the top, don't tipple, don't topple. Bubble and brace it.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique. Demain sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
Une mère mannequin, un père champion de boxe, avec son corps et avec ses mains, Imane Ayissi s'est taillé une place à part dans le monde de la musique et de la danse en France et au Cameroun, mais aussi dans celui de la mode en tant que mannequin et styliste, jusqu'à intégrer le cercle restreint de la haute couture parisienne.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI, témoin d'actu, le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
Depuis des années, l'Ouganda accueille sans restriction les réfugiés de divers conflits de l'Est et du centre de l'Afrique. Ceux qui arrivent ont une garantie de libre circulation et peuvent obtenir une parcelle de terre pour se loger et se nourrir. Comment cela fonctionne-t-il? Quelles sont les limites de ce système? Nous en discutons avec Paulina Zidi.
À écouter sur toutes les applications de podcast et sur rfi.fr.
RFI, il est 18h13 à Paris. Dans quelques minutes, vous retrouvez Décryptage consacré à la popularité de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
Décryptage. Marion Kazanov.
En Ukraine, l'élection présidentielle aurait dû avoir lieu le 31 mars, dans une dizaine de jours. Elle n'aura pas lieu. La loi martiale empêche toute tenue d'élection et elle est régulièrement renouvelée par son président Volodymyr Zelensky. Si ce dernier reste populaire, sa cote a quand même baissé ces derniers mois. L'unité nationale est mise à rude épreuve en raison du peu de résultats de l'armée ukrainienne qui manque d'effectifs et d'armes. Ces premières fissures dans la popularité, dans la légitimité de Volodymyr Zelensky sont-elles dangereuses ? L'unité nationale autour du président est-elle menacée? Élément de réponse ce soir dans Décryptage. Une invitée en studio avec moi. Bonsoir Christine Dugoin-Clément.
Bonsoir.
Vous êtes analyste en géopolitique, chercheuse à la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne à l'Observatoire de l'intelligence artificielle de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et au Créogène, je ne sais pas comment on prononce.
C'est très bien comme ça, vous embêtez pas.
Alors pour commencer, je vous propose d'écouter cet extrait d'interview donné à CNN par Volodymyr Zelensky.
Nous sommes prêts à organiser des élections, mais ce serait difficile à organiser, car c'est contre la loi. En temps de guerre, en Ukraine, il est interdit de tenir des élections. Et même si on changeait cette loi, on aurait un problème avec ceux qui sont partis à l'étranger. Nous n'avons pas les infrastructures, alors comment faire voter 6 à 7 millions d'exilés? Et si on y arrivait, il faudrait des élections démocratiques, propres. Mais comment des observateurs internationaux pourraient venir en Ukraine? C'est dangereux, surtout sur les lignes de front. Et même si toutes ces conditions étaient réunies, que faire de la population qui se trouve dans les territoires occupés?
Alors, il y a quelques semaines, donc, Volodymyr Zelensky, que l'on entendait dans cet extrait, expliquait pourquoi il n'y aurait pas d'élection tant que la guerre durerait. La présidentielle, je l'ai dit, aurait dû se dérouler dans 10 jours, le 31 mars. Christine Dugoin-Clément, si elles avaient été maintenues, qui gagnerait? Qui aurait gagné?
Alors, il est toujours extrêmement difficile de faire une élection avant le scrutin. Hein. Vos collègues commentateurs politistes le savent d'ailleurs très bien. Ce qui est notable, hein, ce que l'on a pu voir, c'est une fluctuation effectivement dans la popularité du président Zelensky, qui a baissé. Alors cela dit, elle restait quand même enviable pour certains, hein, quand on regarde notamment les sondages qui avaient été réalisés par le KIS, qui est un institut de Kiev. Il était encore à 62% en fin d'année dernière, donc c'était une chute par rapport à l'année précédente de quelques 20%. Cela dit, on a quand même beaucoup de chefs d'État qui aimeraient bénéficier de 62% de popularité.
Par exemple, Emmanuel Macron, le président français, on peut citer, lui, il est à 28% selon les derniers sondages. Donc effectivement...
62%, ça reste un pourcentage qui est tout à fait honorable, même s'il y avait eu une baisse. Et ce qui est quand même aussi important, je pense, pour essayer de resituer au niveau, vous le disiez, de l'unité nationale et du sentiment des Ukrainiens, c'est que ce sondage-là parle aussi des chiffres des personnes qui disent faire confiance à l'armée et à l'État, donc vraiment à cette position de guerre. Et là, on atteignait des chiffres qui étaient extrêmement importants. On était à plus de 95%. On se rappelle de la bisbille qu'il y avait eu et du changement du limogeage du général Zaloujny.
Le chef d'état-major
qui est encore
plus populaire que...
Voilà, qui à ce moment-là avait une popularité qui était beaucoup plus forte. Mais par contre, ce que l'on voyait aussi, c'est qu'à la même période, il y avait une volonté d'arriver à avoir une unité entre le président et l'armée, avec à peu près 60% qui attendaient cette approche-là. Et puis peut-être à peu près un autre point, c'est que malgré tout, toujours sur ces sondages-là, il y en a un qui a été fait de manière plus récente, hein, à la fin du mois de février, et qui interrogeait les Ukrainiens sur leurs sentiments par rapport au fait que le président Zelensky reste en fonction ou pas pendant toute la durée de la loi martiale, ce qui est conforme à la constitution ukrainienne. Et là, on était à quelque 70%. Qui était dans cet état d'esprit-là sur les personnes sondées. Alors me direz-vous, toujours sur les personnes sondées, bien sûr, mais parce qu'il y a cette conscience de ce qui a été évoqué là, c'est-à-dire la difficulté de mener des élections démocratiques comme il se doit dans un pays en guerre, et tout particulièrement, alors il y a effectivement la question des réfugiés, des déplacés, et vous avez aussi, et c'est pas la moindre des choses, la question de comment tenir les élections dans les oblasts qui ont fait l'objet d'une annexion par la Russie, mais qui sont quand même des territoires ukrainiens. Comment est-ce que là, vous allez tenir des élections? Donc il y a beaucoup d'enjeux sécuritaires, mais pas que, aussi pour l'expression des votes des Ukrainiens.
Et alors si la popularité de Volodymyr Zelensky reste quand même forte, vous l'avez dit, qu'on commence quand même un peu à dégringoler, comment est-ce qu'elle va évoluer? Est-ce qu'elle va continuer aussi est-ce qu'il va continuer à chuter et perdre des points dans les sondages?
Là encore,
ça va dépendre de quoi?
Là encore, c'est difficile de répondre. Pour mémoire, la popularité de Volodymyr Zelensky était très faible avant la guerre. Il a incarné ce chef de guerre avec la prise de responsabilité. Il a quelque part endossé une position qui était délicate et a bénéficié du soutien de la population ukrainienne qui était dans cette approche de résistance à l'invasion massive russe, avec cette conscience de s'était résisté ou disparaître. Là, on sait qu'on a un véritable enjeu qui est assez clivant au niveau ukrainien, c'est la question de la mobilisation. Ça, c'est un point qui est assez délicat, sur lequel l'Ukraine doit se pencher, puisque il y a plusieurs enjeux hein, sur le terrain militaire. Bien évidemment, on a tout ce qui est du domaine de l'approvisionnement, alors du soutien financier et de l'approvisionnement en matériel militaire, qui est d'ailleurs aussi un enjeu et un sujet pour les Occidentaux, européens et américains aussi. Alors là aussi, on a des enjeux d'élection à venir. On a la question de la logistique et on a la question de l'armement en termes humains, c'est-à-dire d'arriver à avoir des rotations, des hommes qui sont sur le front, d'arriver à avoir de nouvelles recrues qu'on ait le temps de former et qu'on ait le temps d'équiper. C'était d'ailleurs un des points qui avait souligné les dissensions qu'il y avait pu y avoir entre le général Zaloujny et le président Zelensky à ce propos-là. Il y avait plusieurs hypothèses qui étaient sur la table et tout était assez clivante et assez polarisante au sein de la population ukrainienne, voire même au sein des différents partis. Rapidement, sur ces différentes options, il y avait celle du tirage au sort, qui est quelque chose que l'on a vu, hein, qu'on a même pu connaître en France pendant le conflit mondial, avec tout ce que cela peut donner, hein, de gens qui ne veulent pas forcément y aller, qui essayent de contourner. Mais voilà, cette hypothèse-là. Il y avait une autre hypothèse qui était celle que les Ukrainiens avaient tendance à essayer, à plébisciter, qui était de mieux rémunérer les hommes qui s'engageaient. Sauf que là, ça pose l'enjeu de la soutenabilité d'une telle mesure, purement économique. Et puis, l'Ukraine a un enjeu aussi qui est de dire qu'il faut penser, alors même qu'on est en guerre, à l'avenir de l'Ukraine. Ce qui veut dire, est-ce qu'on accepte de sacrifier une génération de jeunes qui sont finalement la force de travail et la force de production de la décennie à venir ? Est-ce qu'on accepte d'envoyer tout le monde, y compris des parties de la population qui soutiennent l'économie ou pas ? Et il y avait donc une proposition qui avait été faite alors avec cet argumentaire-là, qui était de dire qu'on allait essayer de protéger les personnes dans la population qui rapportaient beaucoup. Et là, ça avait été extrêmement clivant parce que ça avait été vu, simplifié ou en tout cas perçu et reçu comme les riches seront protégés et les pauvres iront la guerre.
Donc ça, ce sera un calcul politique à faire pour Zelensky, pour le gouvernement, pour rester populaire.
Mais ça sera un enjeu en termes de popularité sur la façon dont ce sera perçu et la façon dont les Ukrainiens vont réagir. Et en fonction de l'option qui sera prise, eh bien, il y aura des mouvements. Et puis vous avez des oppositions politiques. Hein,
Alors oui, d'où viennent ces critiques ? Est-ce que ça vient seulement de l'opposition ? De plus en plus, on entend un petit peu des voix qui... l'unité nationale dont je parlais est un peu mise à mal. De plus en plus de personnes critiquent le président, parfois à découvert, entre guillemets. C'est que l'opposition qui formule ces critiques ?
Alors, l'opposition est évidemment dans son rôle. Alors, est restée plus silencieuse avec cette unité pour le besoin, mais là, on s'inscrit dans un temps qui est plus long. Et on le voit aussi, hein, côté ukrainien comme côté russe comme côté occidental, on est inscrit dans un contexte de conflit qui va durer, donc dans une loi martiale qui va durer, donc dans un report d'élection, si on se fie à la constitution ukrainienne, qui va donc durer en l'état. Quand vous êtes dans un agenda politique, si vous voulez ne pas avoir de deadline, hein, ne pas avoir de date limite, est toujours quelque chose qui est un enjeu. Donc on a Pietro Poroshenko, ancien président, qui a la critique assez rapide, notamment parce qu'il avait fait partie de ceux qui ont été interdits de sortie du territoire et qui a un contentieux assez individuel politique avec le président Zelensky à l'heure actuelle. On a d'autres membres de l'opposition, je pense par exemple au parti Olos, qui aussi vont se positionner sur ce type d'approche-là. On peut avoir d'autres critiques aussi en interne qui vont toucher à la façon dont la politique interne va être gérée. Je pense par exemple à des réformes qui ne seraient pas menées alors soit comme il conviendrait, soit dans la temporalité qui serait satisfaisante. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y avait eu, vous vous en rappelez très certainement, ce gros mouvement de purge au niveau des commissions qui assuraient le recrutement justement pour des questions de corruption. Et cette approche-là de Zelensky avait été menée à deux niveaux en disant « je continue de faire ce travail d'anticorruption », qui est d'ailleurs une double demande et au niveau du FMI et au niveau de l'Union européenne, puisque candidats à l'Union européenne doivent atteindre des standards attendus par l'Union.
Est-ce que ça fait partie justement des critiques ? Toujours, il s'est fait élire sur une politique anticorruption. On l'a vu, il a certains de ses proches donc ont été éclaboussés par certaines affaires. Est-ce que ça aussi, ça rentre en, c'est ce qui contribue à faire baisser un peu sa popularité, le, est-ce qu'on lui reproche un manque d'action, est-ce qu'il est pas assez convaincant là-dessus?
Alors ça a pu être reproché au début. Il y a eu quelques affaires qui avaient fait pas mal de bruit. Peut-être que vous vous rappelez notamment de détournements de fonds au niveau du ministère des Armées quant aux fournitures pour les hommes, alors que ça soit équipement militaire ou repas. Il y a eu des réactions qui ont été prises. Et il faut pas oublier que on a une société civile et notamment des journalistes qui sont assez attentifs à ça. Avant l'invasion, le mouvement massif, il y a toute une communauté qu'on appelle des watchdogs, hein, donc des veilleurs, qui travaillent pour non seulement mener des enquêtes quand il y a ce genre d'action, pour les mettre au jour, que la population le sache et que ça produise, que ça induise des actions correctrices assez rapides. Mais vous avez aussi des groupes qui font du suivi, du monitoring, des différentes réformes qui ont été demandées. Et ça, c'était quelque chose qui était déjà mené avant l'invasion, alors qu'il y avait déjà la guerre dans le Donbass. Avec le début de l'invasion, il y a eu tant de choses à faire que... c'est pas une volonté d'étouffer, mais à un moment, les individus ont été touchés. Les journalistes ont eu aussi d'autres sujets à traiter. Certains sont partis sur la ligne. Il y a eu des pertes humaines aussi. Mais on a vu la reprise, quelque part. Alors, pas une normalisation, mais une adaptation à ce rythme nouveau qui a permis qu'on ait ce retour des enquêtes au niveau des journalistes. Donc, il y a quand même un suivi qui est assez fort là-dessus. Et on pourrait toujours vouloir que ça aille plus vite, bien évidemment. Au demeurant, on est face à un État qui subit une agression et une invasion massive et qui, malgré tout, continue, alors peut-être pas forcément au rythme qu'on voudrait ou comme on le voudrait, mais qui continue de mener ce type d'action. On peut parfois regretter que ce soit assez opportuniste dans l'agenda sur des actions un peu massives, mais néanmoins, elles sont menées. Après, on est dans une situation qui est particulièrement compliquée et un État qui se retrouve à devoir slalomer avec beaucoup de chausse-trappe.
Oui, on parlait justement de la popularité de Volodymyr Zelensky. Est-ce que... du fait qu'il n'y aurait pas d'élection donc en mars ce mois-ci, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de scrutin, ça ne va pas empêcher justement Volodymyr Zelensky, qui aurait pu se faire réélire, à asseoir sa légitimité, notamment à l'international? Ça pourrait, une élection, une réélection de Zelensky, ça pourrait rassurer les alliés occidentaux?
Alors, en tout cas, vous faites bien de le souligner, parce que c'est un des points qui sera, et quelque part ça ne manque pas de sel, souligné par la Russie, qui expliquait déjà que depuis le Maïdan, donc c'était un gouvernement illégal, après avoir expliqué que finalement l'Ukraine n'existait pas en tant que telle réellement, oui. Mais que là on aura un président qui sera tout particulièrement illégitime dans la mesure où il n'aura pas concouru, il ne sera pas présenté au vote populaire. Alors que le président Poutine lui-même vient d'être réélu avec un suspense torride et 80 et un pourcentage qui
87%.
Est 87, oui. Il y en avait des fuites comme quoi la demande au niveau de l'administration était de 85. Bon, ce qui nous amènerait à un léger excès de zèle au niveau des commissions politiques. Malgré tout, et ça c'est assez intéressant, on a eu en Russie des mouvements de contestation non négligeables, mais qui ont eu des doubles effets. Par exemple, il y a eu tout ce mouvement sur la réunion des midis, où les opposants voulaient se réunir devant les bureaux de vote à midi pour aller tous porter un bulletin contre quelqu'un d'autre, et ça a été recyclé en disant « voyez ma popularité ». C'est un argument qui sera en tout cas repris côté russe. C'est un argument qui a été débattu en Europe et au niveau de l'Union avec « oui, mais vous faites une spoliation ». La réponse ayant été « non, je suis en accord avec la constitution de mon pays ». Et c'est des situations qu'on a pu connaître et qu'on a pu voir. Si on est dans un conflit qui s'étend sur de très nombreuses années, ça commencera à devenir problématique. Mais à l'heure actuelle, organiser des élections serait extrêmement délicat si on veut vraiment s'inscrire dans des processus démocratiques où chacun pourra voter, où on aura une vraie campagne, où on aura une surveillance et où on n'aura pas de pression sur les votants. Je ne suis pas sûre que des Ukrainiens dans les oblasts occupés de Kherson et de Zaporijja puissent voter en toute quiétude d'esprit.
Merci beaucoup Christine Dugouin-Clément, analyste en géopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Décryptage ce soir. Dans quelques secondes, le débat du jour avec Romain Ozoui.